BFM Radio.
Son visage figure dans les bases de données de toutes les polices du monde entier. Xavier Dupont de Ligonnès reste l'homme le plus recherché de France après maintenant 15 ans, depuis avril 2011, après ce quintuple meurtre de Nantes, dans la maison familiale, là où ont été retrouvés enterrés sa femme Agnès, ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne, Benoît et leurs cinq chiens. Voici mes invités que je suis ravie d'accueillir avec vous, Dominique Rizet. Je salue au passage.
Et on se retrouve, quel bonheur.
Quel bonheur. Gilles Gallou, ancien enquêteur à l'Office central de lutte contre la criminalité de la police judiciaire. Vous êtes l'auteur de ce livre, Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'enquête. C'est chez Max Millot. Philippe Crérange à vos côtés, journaliste rédacteur en chef adjoint au Télégramme, auteur des Hantés, édition Robert Laffont. Voilà, j'ai l'impression d'être dans la grande librairie. Et puis Stéphane Goldenstein, avocat de Christine, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. Merci à tous les trois messieurs d'être avec nous. Dans un instant, Gilles Gallou, vous allez nous raconter votre voyage aux États-Unis et cette piste américaine. Mais avant, pour replonger dans cette énigme criminelle, les éléments de l'enquête avec Pierre-Louis Bousset.
Le 15 avril 2011, c'est à pied que Xavier Dupont de Ligonnès quitte cet hôtel du Var. Laissant derrière lui son véhicule, il s'évanouit dans la nature. Le dernier signe de vie laissé par celui qui est devenu l'un des hommes les plus recherchés de France. Une semaine plus tard, le 21 avril, l'épouse et les quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès sont retrouvés morts sous la terrasse de la maison familiale à Nantes. Une exécution méthodique, par balle, dans la tête. Les deux labradors de la famille ont aussi été abattus et enterrés. Une maison de l'horreur, un quintuple homicide, dont le principal suspect reste introuvable.
La poursuite de sa recherche et son témoignage sont évidemment essentiels pour déterminer précisément les causes de ces cinq morts.
Ces dernières années, plusieurs personnes ont affirmé avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès. Les autorités ont aussi multiplié les fouilles, monastères, couvents, cimetières, en vain. En 2019, un homme est arrêté à l'aéroport de Glasgow en raison de ses empreintes génétiques. Là encore, fausse piste. Le dernier développement en date provient des États-Unis. Le bureau d'un shérif du Texas affirme que Xavier Dupont de Ligonnès y aurait été aperçu en 2020 en compagnie d'un labrador et a lancé un appel à témoins.
Alors, aujourd'hui, tous ensemble, on va pas se poser la question de savoir si Xavier Dupont de Ligonnès est mort ou vivant. On va tous plancher, si vous le voulez bien, sur l'hypothèse qu'il est vivant. Gilles Gallou, vous avez été enquêteur à l'Office central cybercrime de la PJ. Vous êtes parti aux États-Unis sur sa piste, sur ses traces. Qu'est-ce que ça a donné?
Alors, en fait, vous avez commencé votre reportage en disant que le dernier signe de vie de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est le 15 avril sur le parking de Roquebrune-sur-Argence. Et c'est exactement ce que je cherche, en fait, depuis presque deux ans maintenant. Et c'est aussi l'objet de mon livre. De retrouver une trace de vie de Xavier Dupont de Ligonnès.
Spoiler, est-ce que vous avez des traces aux États-Unis de...
Alors, vous commencez par la fin de mon livre, mais effectivement, je ne me suis pas levé un matin en disant « Tiens, Xavier Dupont de Ligonnès est parti aux États-Unis. » Finalement, c'est lui-même qui le dit dans de nombreux de ses écrits. La piste américaine n'est pas du tout incohérente. Au contraire, dès les premières lettres, il dit qu'il part aux États-Unis. Est-ce que cette piste a été explorée? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai décidé d'essayer de retrouver une trace de vie de Xavier Dupont de Ligonnès, d'abord en France, et finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé des éléments qui m'amenaient au Texas, où je suis allé, où je suis revenu il y a quelques semaines. Et donc, j'ai exploré cette piste de personnes qui ont croisé le chemin de Xavier Dupont de Ligonnès et son meilleur ami Michel Rétif. Et voilà.
Dominique.
Comment est-ce qu'il serait parti aux États-Unis, Gilles? Dans votre livre, vous parliez des bateaux, de ce qui a été fait, les bateaux qui partaient de Saint-Nazaire. Dernier endroit où on le voit, c'est Roquebrune sur Argent, le jour où il part donc du Formule 1. Et vous parlez ensuite des bateaux vers Saint-Nazaire. Comment est-ce qu'il serait allé de Roquebrune à Saint-Nazaire?
Alors, en fait, j'affirme rien. Dans mon livre, j'essaye de... D'abord, mon livre, il essaye de refermer un maximum de portes. Et les seules portes que je laisse ouvertes, c'est les hypothèses possibles de fuite. Donc, Saint-Nazaire en est une. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, il y a l'aéroport, il y a plusieurs pistes de fuite possibles. Et donc, si vous me demandez clairement sur celle-ci, sur Saint-Nazaire, si vous regardez Roquebrune-sur-Argence, cette ville est située exactement entre deux gares TGV, à à 10 km à droite et 10 km à gauche du Roquebrune-sur-Argens. Donc il y avait la possibilité de prendre un TGV qui remontait sur Paris. Et Saint-Nazaire est desservi par une gare TGV. Donc c'était une des façons de remonter, comme l'a fait John List, qui a laissé sa voiture garée devant l'aéroport de JFK.
Ça, c'est aux États-Unis.
On en reparlera. Ouais. Un cas criminel aux États-Unis qui a peut-être, on ne le sait pas, inspiré Xavier Dupont-Ligonnès. Et dans votre livre, on découvre aussi l'ampleur, l'étendue des traces numériques qu'il laisse derrière lui. Vous parlez de 23 sites internet, vous épluchez tout, 47 pseudos, une vingtaine d'identifiants, 23 sites différents. Est-ce qu'il a brouillé les pistes ?
Alors, je peux rien affirmer, mais si, vous parlez d'une masse énorme de données, c'est vrai. Mais si finalement on regarde la synthèse de toutes ces données, qu'est-ce qui reste de toutes ces données ? Il reste une lettre qui s'appelle « Lettre à ma Catherine ». Et finalement, cette lettre, si on regarde la chronologie des faits, Xavier Dupont-Ligonnès, qui était soi-disant dépressif, il a justement très méticuleusement supprimé des milliers de fichiers de ses serveurs, sauf un. Cette lettre à la Catherine, et c'est d'ailleurs le premier document que j'ai eu entre mes mains quand j'ai pris l'enquête.
Dites-nous qui est Catherine.
Catherine, c'est sa maîtresse. Et donc... Je ne sais pas s'il a fait exprès d'oublier cette lettre. En tout cas, moi, c'est le premier élément que j'ai eu entre les mains quand j'ai pris.
Elle lui a prêté de l'argent.
Voilà.
Et dans cette lettre, il y a cette phrase qui va résonner. Tu n'as plus qu'à patienter, car personne ne pourra me retrouver.
Alors, il y a, en fait.
Plusieurs lettres.
Il faut aller doucement. Il y a 5 lettres qui sont, à mon avis, cruciales. Effectivement, cette lettre de ma Catherine qui est datée du 14 janvier 2010. Ensuite, il y a une lettre qui s'appelle Disposition à prendre, qui est une lettre qu'il a adressée à ses deux amis Michel Rétif et Emmanuel Teneur, où là encore, on sent qu'il parle de suicide, ou en tout cas de fuite. Et ensuite, il y a la lettre Coucou tout le monde, ou que tout le monde connaît, et la dernière lettre que vous venez de citer à sa maîtresse, et la lettre à Michel Rétif que je cite dans mon livre.
On va y revenir. Avec Sabina, on va essayer de retracer l'itinéraire de Xavier Dupont-Ligonnès pendant ce mois d'avril 2011. Sabina, tout démarre à Nantes, dans la maison familiale.
Oui, alors c'est ça, tout commence à Nantes, le 7 avril 2011. Xavier Dupont-Ligonnès est aperçu au domicile familial, transportant plusieurs sacs volumineux. Il quitte définitivement Nantes le 10 avril au matin et coupe son téléphone. Puis commence sa cavale vers le sud dans la nuit du 11 au 12 avril. Xavier Dupont-Ligonnès passe par Toulouse. Il dort dans un hôtel de la ville et donc les enquêteurs retrouvent sa trace grâce aux réservations et aux paiements effectués sur place. Dans la soirée et dans la nuit du 12 au 13, il est localisé au Pontet, dans le Vaucluse. Il dîne et passe la nuit dans une auberge 5 étoiles. Là encore, plusieurs éléments permettent de confirmer sa présence, des témoignages, des paiements ou encore des images de vidéosurveillance. Enfin, dans la nuit du 14 au 15 avril 2011, il arrive dans le Var, à Roquebrune-sur-Argens, le 14 avril, pardon. Regardez ces images. Il est filmé par une caméra de vidéosurveillance en train de retirer de l'argent, puis... Il séjourne dans un hôtel Formule 1 où il sera filmé pour la dernière fois. Sa voiture est ensuite retrouvée abandonnée sur le parking de l'hôtel le 21 avril. C'est donc dans le Var que Xavier Dupont-Ligonnès est localisé pour la dernière fois. Après cette nuit du 14 au 15 avril 2011, il disparaît totalement.
Merci beaucoup Sabina. Donc la dernière trace visuelle de Xavier Dupont-Ligonnès, c'est Roquebrune-sur-Argens. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres photos que l'on ne connaît pas, Maître Goldenstein, dans ce dossier par exemple ?
Ah non, on connaît tout.
On connaît tout.
Même M. Gallou connaît la vérité. Il est parti aux États-Unis et il a même le billet d'avion qui a été découvert. Non, on ne connaît rien. La réalité, c'est que tout s'arrête le 15 avril. Alors, j'entends les États-Unis. Effectivement, il dit dans la lettre que tout le monde a pris pour une supercherie qu'il allait partir en Australie ou aux États-Unis. Mais en réalité, des investigations ont été réalisées. Je relisais récemment parce que ça me trottait dans la tête. En fait, il y a une personne qui a reconnu Xavier Dupont-Ligonnès en Floride, à Miami. Et donc, à l'époque, on s'activait sur toutes les pistes. Et en réalité, ils ont interrogé Interpol, et Interpol a répondu qu'il n'y avait aucune trace de la famille de Ligonnès aux États-Unis. De la même manière, ils ont interrogé Air France pour vérifier si des vols étaient... la famille de Ligonnès sur des vols au départ de Paris pour les États-Unis ou pour l'Australie, rien du tout. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'il est en Australie, mais il peut être dans le détroit d'Ormuz. Hein,
mais il peut pas avoir fabriqué des faux papiers, pardon la question naïve. Il peut avoir voyagé sous notre identité.
Évidemment, mais alors, pourquoi plus aux États-Unis que pas parce qu'il y a été 15 ans auparavant et que sa femme a voulu revenir en France parce que les enfants n'avaient pas de vaccin.
Parce que pour une cavale, il faut, vous le savez, Dominique, mieux que moi, il faut de la logistique, oui, il faut des relais, bien il faut sûr, de l'argent.
Mais alors, je vais vous retourner la question. Mais pourquoi tuer tout le monde? Pourquoi pas s'en aller?
Et les cartes d'identité, c'est pas aussi facile à falsifier maintenant que ça l'était autrefois avant les cartes d'identité carton. Ouais. Mais les cartes d'identité biométriques, ce qu'on nous a raconté sur l'Écosse, ça n'a aucun sens. On ne peut pas falsifier une carte d'identité biométrique.
Ah, si, vous allez.
Il faut être un agent secret, il faut être à la DGSE.
Ou vous allez dans certains quartiers de Paris, vous en trouvez rapidement, des fois.
Avec la biométrie?
Si on prend les photos du dossier, toutes les photos du dossier, la terrasse, cette histoire de gamelle qui a permis du coup à l'enquêtrice de se rendre compte qu'elle était positionnée de manière suffisamment bizarre pour se dire qu'il fallait creuser sous cette terre meuble. La vidéosurveillance de l'hôtel Formule 1 où il a un livre à la main, un livre je crois de Bernard Minier si je me souviens bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut décrypter? Est-ce que ça veut dire que tout ça est savamment orchestré selon vous, Gilles Galloux?
Alors moi, dans mon livre, je fais beaucoup de choses au conditionnel, mais sur ce passage précis dont vous parlez de l'hôtel Formule 1, moi je suis intimement convaincu que c'est une mise en scène.
Parce que
pour montrer que Xavier Dupont-Ligonnès part se suicider. C'est-à-dire il y a une forme longue qui dépasse de sa sacoche que tout le monde prend pour une carabine. Moi j'ai vu ces vidéos, j'ai jamais eu l'impression que c'était forcément une carabine. Personne le sait si c'est une carabine.
Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous écrivez ce passage, ce regard furtif de Dupont de Ligonnès gravé dans ma mémoire. Au moment où il regarde cette caméra, j'ai dû le visionner des centaines de fois. Ce regard ne me quitte pas 15 ans après. J'ai toujours eu la conviction qu'à ce moment précis, Xavier jouait un rôle de son plan sous l'objectif de la caméra. Quel rôle?
Le même rôle qu'il a joué dans la maison à Nantes. C'est-à-dire que si vous prenez la description de la maison telle qu'elle a été découverte par les policiers, c'est une mise en scène. Tout est mise en scène. Même sous la terrasse, tout est mise en scène. N'allez surtout pas voir sous la terrasse. Je veux dire, les photos...
Tout est fléché quand on dit n'allez pas voir. C'est comme quand on dit aux enfants, faites pas ça, il faut absolument...
Ils ont quand même mis 10 jours. Hein.
Il a donc 10 jours d'avance. Philippe Créant, j'ai une question. Est-ce que votre voisin de table est hanté?
Ah oui,
c'est le titre de votre livre.
Il est hanté, j'aurais à la limite aimé l'avoir dans mon livre aussi, mais je ne savais pas qu'il venait en parallèle.
Vous auriez pu rajouter un chapitre alors?
Bah, complètement, au moins un témoignage. Pour en revenir sur la mise en scène, je suis assez d'accord. Tout donne l'impression qu'il y a eu une mise en scène, que ça soit dans sa maison du boulevard Schumann ou au niveau de l'hôtel Formule 1 Roquebrune-sur-Argent. Mais par qui elle a été organisée cette mise en scène? Je tiens juste à rappeler, alors pardon, je peux me mettre à la place peut-être de Maître Goldenstein, mais Xavier Dupont de Ligonnès, il est président mais innocent aujourd'hui.
Absolument.
Et rien ne démontre que c'est lui qui a organisé tout ça.
On prend juste l'hypothèse qu'il est vivant.
C'est ça. Hein? Mais il y a des éléments, évidemment, qui sont troublants. Mais il y a aussi des zones d'ombre. Donc, il faut peut-être être prudent vis-à-vis de cette mise en scène-là.
C'est vrai que je dois féliciter M. Créange parce qu'en fait, il a essayé de faire un travail assez objectif et de ne pas privilégier une hypothèse ou une
assez
autre hypothèse.
Assez humain, surtout, parce qu'à travers votre livre, on voit effectivement toutes ces personnes qui sont frappées par ce dossier.
Mais moi, je voulais pas mener une enquête comme d'autres ont été menées, par Gilles Galloux, par beaucoup d'autres. Et, ce qui m'intéressait, c'était surtout une quête psychologique, finalement, à travers ces témoins qui, 15 ans après, ont totalement été habités par ce dossier. Et je voulais savoir comment ce dossier-là avait pu percuter leur propre vie.
Alors, il y a cette dernière lettre de Michel Rétif, vous en parliez tout à l'heure, Gilles Galloux. Qu'est-ce qu'elle contient, cette lettre? Je penserai bien à toi, on va le voir à l'écran. Pas le droit de dire où, mais tu y es passé avec moi en novembre 1990. Indice à creuser, lol. Qui peut me faire le sous-texte? Vous?
Non, mais en fait, tout le monde a compris que comment on peut imaginer un homme qui viendrait tuer toute sa famille et qui écrit une phrase aussi légère et donner un indice à creuser. Donc déjà, on est dans une enquête, c'est un cluedo, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, cette phrase. Et donc moi, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a interpellé, et je me suis dit, mais cet indice à creuser, il faut le trouver. Et c'est cette piste-là qui m'a amené au Texas, puisque finalement, l'indice à creuser dont parle Xavier Dupont-Ligonnès, c'est où étaient Xavier Dupont-Ligonnès et Michel Rétif en novembre 90.
On peut rappeler Michel Rétif, l'un de ses meilleurs amis?
Ouais, son meilleur ami. Ouais.
Avec Emmanuel Teneur.
Et Emmanuel Teneur.
Je voudrais vous poser deux questions. Est-ce que la police est passée à côté de quelque chose?
Laquelle? Est-ce qu'il y a française des choses, ou américaine?
La police française, la PJ de Nantes, est-ce qu'elle est passée à côté de quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas fait? Première question.
Ah, je serais bien mal placé pour dire du mal de mes collègues, puisque j'étais un des enquêteurs de l'époque, mais personne n'est parfait. On est sans doute passé à côté de ça.
Surtout, vous avez du retard dès le départ.
De retard, oui. Donc,
10 jours d'abord et puis après 15.
6 jours de retard.
Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, excusez-moi, je pense que moi, personnellement, je me suis enlisé dans cette piste mystique. Mais c'était Xavier lui-même qui nous a orientés dans cette piste en laissant un message sur le site, le Forum Cité Catholique, qui nous laissait penser qu'il attendait une réponse ou en tout cas qu'il y avait un message codé. Okay. Et moi, j'ai perdu des mois dans ces messages catholiques. Ça, c'est vrai.
Et c'était peut-être le but, dites-vous.
Peut-être.
Et deuxième question, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été entendues? Des personnes proches de lui qui n'ont pas été entendues, qui seraient peut-être à l'étranger aujourd'hui ou est-ce qu'il y en a?
Oui, bien sûr. Il y a des personnes, moi, aujourd'hui, que je peux pas vous dire ici, mais je suis certain qu'il y a des personnes très, très, très proches de Xavier, notamment une dont Xavier parle.
Son ancienne petite
lettre,
amie?
Non. Ah. Dans sa lettre, si vous regardez la lettre de Coucou Tout le Monde qui a été publiée partout, l'une des personnes dont Xavier parle dès le début de la lettre, c'est la personne qui m'a aidé à créer ma société aux États-Unis, c'est elle qui m'a mis en relation avec les services secrets. Je pense que c'est super intéressant de s'intéresser à
cette personne.
Cette personne existe, sans doute, mais je peux vous demander d'essayer de la trouver, vous allez vous casser les dents dessus. Parce que ce type-là est introuvable.
Philippe Criange, qui est le plus hanté de vos hantés dans votre livre? Qui a été le plus traumatisé, si je puis dire, par ce dossier?
Ouais, ils sont nombreux, mais je crois que c'est le témoignage exclusif que j'ai, voilà, qui n'avait jamais été publié jusqu'alors, c'est celui de Bénédicte, qui était une amie d'Agnès Dupont de Ligonnès. Elles habitaient à Pornic toutes les deux à l'époque. Elles se voyaient régulièrement, elles échangeaient quotidiennement. Et cette femme, effectivement, est totalement hantée par cette affaire et elle ne s'en est pas remise. C'est le témoignage premier qui me vient à l'esprit quand vous posez cette question, bien sûr.
Et Maître Goldenstein, votre cliente, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, comment elle vit aujourd'hui? Dans quel état d'esprit elle est? Est-ce qu'elle, cette hypothèse qu'il est vivant, elle y croit plus que fortement? Mais j'imagine qu'elle nous regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça?
Elle ne nous regarde pas forcément. Ah. Elle attend des synthèses de ma part, mais elle ne nous regarde pas parce qu'elle en a assez. Elle vit avec ça depuis, vous rendez compte, 15 ans, à devoir supporter de porter le nom de Dupont de Ligonnès et à chaque fois de... On pose des questions, mais alors votre frère, il est où? Il est mort? Il est vivant? Il a tué? Il a pas tué? Enfin, c'est insupportable.
Mais vous avez laissé un message juste avant l'émission, donc elle s'intéresse à ce que vous faites.
Ah oui, tout à fait. Je préviens ma cliente quand je passe sur BFM et je lui demande si elle a des explications à faire ou à donner. Là, elle m'a fait un raisonnement frappé au coin du bon sens, c'est de me dire, mais c'est quoi cette histoire d'États-Unis? Est-ce qu'il a vraiment besoin de tuer tout le monde? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Est-ce qu'on a besoin de tuer tout le monde si on veut partir aux États-Unis? Enfin, elle n'y croit pas du tout. Enfin, cette hypothèse-là.
Et son mari concluait, il réapparaîtra quand il aura décidé de réapparaître, mais personne ne le retrouvera. Je n'ai pas très bien compris la différence entre le retrouver et réapparaître, mais voilà.
Il a dit ça quand
Il a dit ça dans son livre, ouais.
Dans son livre, ouais. En fait, ils sont repartis à l'hypothèse première que la lettre qui a été communiquée à tout le monde est la vérité. Puisque de toute façon, la vérité judiciaire, ils n'y croient pas du tout. La vérité des uns et des autres, en fait, ils y prennent ce qui les intéresse. Et donc, ils se disent, après tout, pourquoi pas, puisque nous, on sait que Xavier, il n'a pas pu tuer tout le monde. Il est aux États-Unis avec toute sa famille. C'est là-dessus qu'elle se raccroche. Et c'est vrai que c'est compliqué à la contredire.
Oui. Merci. Merci à tous les trois d'avoir éclairé cette énigme criminelle. Je rappelle ces ouvrages passionnants. Celui de Gilles Galou, il est là. Celui de Philippe Criange, il est là. On peut faire comme si, on peut faire comme ça. Merci, messieurs, d'être venus ici. Et évidemment, vous êtes réinvités dès qu'on a de nouveaux développements. C'est un autre dossier qui nous passionne tout autant et qui n'a pas fini de livrer sa vérité. Il y a une garde à vue en cours. C'est un homme de 78 ans et une tentative d'incendie sur la maison des grands-parents d'Émile au Auvernais, à l'endroit même où le petit garçon avait disparu il y a presque 3 ans. Alors, pour en parler, j'accueille mes invités qui sont en train de s'installer. C'est ce qui fait le charme de cette émission. Valentin Doyen, journaliste, c'est vous qui avez couvert avec Boris Karlamos l'affaire pour BFM TV. Vous êtes l'auteur d'Émile. Le voici, votre livre, Les zones grises de l'antenne. Philippe Zdanevitch, gendarme, analyste colcaise de l'association Indicea. Boris Karlamov, vous êtes journaliste PJ de BFM TV, c'est vous qui suivez ce dossier pour BFM TV. Et on va commencer, Boris, par ce qui se passe en ce moment. Cette garde à vue dont je parlais tout à l'heure, qui est prolongée, les dernières infos, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Oui, il y a donc cet homme âgé de 78 ans qui a été interpellé hier matin à 6h dans un hôtel du Vernet, puisqu'il est suspecté d'être l'auteur de plusieurs départs de feu autour de la maison résidence secondaire du couple Vedovini, les grands-parents d'Émile, qui se situe dans ce hameau, là même où le petit garçon a disparu il y a bientôt 3 ans. Il y avait une forte odeur d'essence sur place quand les sapeurs-pompiers sont arrivés. En réalité, c'est un jeune habitant du hameau qui a donné l'alerte. Et les enquêteurs se sont aperçus que cet homme, qui est toujours en garde à vue, il avait réservé la veille une chambre d'hôtel et qu'il s'était renseigné donc sur cette résidence secondaire. Selon les informations de BFM TV, il a pu échanger avec de nombreux habitants, se faisant passer pour un journaliste néerlandais qui réalisait un reportage sur la baisse du tourisme depuis le début de l'affaire Émile. Il est inconnu des services de police et de justice, il est toujours en garde à vue et sa garde à vue, c'est une information BFM TV, elle a été prolongée de 24 heures supplémentaires, des auditions qui sont en cours et d'autres investigations, puisque l'on a appris ce matin que les gendarmes allaient désormais s'intéresser à la téléphonie de cette personne pour voir s'il y a des bornages dans les mois sur la période où le petit garçon a disparu. Donc plusieurs questions qui vont être posées à cet homme pour tenter de comprendre tout d'abord ses motivations. Est-ce qu'il y a une vengeance personnelle ou s'il y a un lien ou non dans la disparition et la mort du petit ami?
Boris, quel intérêt de se faire passer pour un journaliste s'il veut, si cet homme de 78 ans veut aller incendier la maison, il veut incendier la maison? Pourquoi est-ce qu'il se montre avant dans tout le village en faisant croire qu'il est journaliste?
Mais ça, c'est la question que cherche à comprendre, c'est les réponses que cherchent à avoir les enquêteurs aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce monsieur a fait un véritable stratagème, puisqu'on peut parler d'un stratagème? Il est totalement extérieur à cette région du Auvergne, puisqu'il est domicilié à Marseille. Son domicile, par ailleurs, son domicile marseillais, hier, a été perquisitionné par les gendarmes en fin de journée. Il y avait donc une sorte de préméditation, puisqu'il avait réservé cette chambre. Il a fait toutes les démarches, entre guillemets, pour avoir un maximum de renseignements sur cette maison, et puis il s'est rendu sur place, du moins c'est ce que soupçonnent les enquêteurs, pour tenter d'y mettre le feu. On ignore ses motivations à l'heure où l'on se parle.
Alors, on va joindre l'avocate Maître Colombani, Isabelle Colombani, l'avocate du grand-père d'Émile. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. Vous êtes montée hier avec votre client et sa femme au Auvernais constater les dégâts. Une question simple, quel est l'état d'esprit du grand-père d'Émile et de la grand-mère d'Émile?
Oui, bonjour Madame Revenaz. Ben écoutez, vous comprendrez bien aisément que après le moment de stupeur, quand vous êtes réveillé en pleine nuit par les gendarmes vous indiquant que votre résidence secondaire est en train de brûler, ben il y a l'inquiétude, la peur, une forme d'angoisse parce que ils se demandent si ils sont en sécurité chez eux. Alors ils ont certes fait équiper leur domicile personnel d'un système de surveillance, mais cet incendie dans la résidence secondaire ravive bien de mauvais souvenirs et bien de douleurs.
Mais qui peut leur en vouloir, pardon de cette question si ouverte, mais qui peut leur en vouloir aux grands-parents d'Émile?
J'oserais vous répondre la France entière ou la moitié de la France. Tous ceux qui, depuis la sortie des gardes à vue d'Anne et Philippe Vedovini, pensent que le coupable est encore au sein de la famille. Tous ceux qui, derrière l'anonymat des réseaux sociaux ou de lettres anonymes, n'hésitent pas à les menacer de mort, n'hésitent pas à échafauder des hypothèses plus farfelues les unes que les autres pour les accuser. Tous ces gens-là, c'est des gens qui peuvent leur en vouloir. Alors que vous le savez aussi bien que moi, l'enquête a vraiment passé au peigne fin toute leur vie, leur emploi du temps, leurs habitations. Eh bien, malgré tout, le soupçon peut pousser des gens à des actes qui sont irréfléchis, je vais peser mes mots, parce que là, dans le cas d'espèce, la personne avait quand même bien prémédité son acte.
Alors, vous restez avec nous, Maître Colombani. Boris Karlamov, merci. Vous avez une réaction des grands-parents d'Émile qui nous est parvenue par BFM TV.
Oui, absolument. On sait que leur parole est rare, mais Anne et Philippe Vedovini ont tenu à adresser à BFM TV un message après cette tentative d'incendie. Aujourd'hui, disent-ils, nos enfants et nous-mêmes sommes en danger, car après les gardes à vue, nous avons été broyés et jetés en pâture dans les médias, et il restera toujours des personnes soucieuses de nous faire du mal.
C'est ce que dit effectivement
les grands-parents.
Les grands-parents d'Émile et Maître Colombani, vous restez avec nous. Valentin Doyen, quel statut ont-ils, ces grands-parents, aux yeux des enquêteurs et des magistrats?
C'est la bonne question et c'est la question qu'ils se posent. Et je pense que c'est la question que se pose Maître Colombani et son confrère Maître Pinelli qui défend les intérêts d'Anne Vedovini. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à savoir. Ils n'arrivent pas à savoir, même auprès des magistrats ou des enquêteurs, s'ils sont victimes dans cette affaire ou s'ils sont toujours suspects. Et d'ailleurs, je pense qu'on arrive au bout de quelque chose. Maître Colombani l'a dit, elle peut peut-être pas rentrer dans l'ensemble des détails, mais il y a eu des objets qui ont été saisis en décembre dernier dans les résidences des grands-parents, que ce soit à la Bouilladis ou que ce soit au Vernet. Tout a été rendu. Rien n'était placé sous scellé. Et donc, l'affaire a bientôt 3 ans. 8 juillet 2026, ça fera 3 ans jour pour jour que cet enfant a mystérieusement disparu. Et les grands-parents ne savent toujours pas. Il va bien falloir qu'ils puissent avancer, se construire en étant pleinement partie civile ou toujours suspecté. Et c'est peut-être cette ambivalence qui aujourd'hui les met dans une difficulté et met également eh bien, dans l'incertitude les millions de personnes qui s'intéressent à ce dossier.
Mais pardon, j'entendais Maître Colombani, bonjour Maître, qui nous parlait tout à l'heure, nous disait, bon, les grands-parents qui disent, voilà, la phrase qu'a lu Boris, qui ont été jetés en pâture par les médias, on a notre part de responsabilité, absolument, bien sûr, mais c'est vrai que quand même, les enquêteurs, Maître, reviennent toujours vers cette même piste de la famille. On est revenu pour les vélos, on est revenu pour le bac à fleurs devant la chapelle, et on a l'impression quand même que les enquêteurs tournent toujours autour du grand-père, de la grand-mère. C'est pas seulement les médias qui font du grand-père et de la grand-mère les suspects.
Alors, Monsieur Rizet, déjà vous utilisez le mot « on ». « On », c'est tout le monde et personne, alors c'est peut-être vrai, que c'est certains... Vrai. Certains journalistes pensent qu'on tourne toujours autour de la famille. Je vais corriger ce que vous êtes en train de dire. En ce qui concerne la jardinière devant l'église, je ne vois pas en quoi ça pouvait concerner la famille. Ça a été vite écarté et en plus, cette jardinière ne nous appartenait pas.
La famille aime bien cette église, c'est laquelle s'est recueillie, souvent.
Comme dans toutes les églises et chapelles du village, et d'ailleurs, hein, Monsieur Rizet, je crois que quand on se recueille dans des églises, là où on vit ou là où on séjourne. En ce qui concerne les vélos, je sais effectivement que votre chaîne y a passé beaucoup de temps. Je crois que j'avais vu presque 48 heures et je vous le dis très honnêtement, ça m'avait même un peu agacé. Surtout que lorsque les vélos ont été restitués...
On a donné l'information, Maître Colombani.
Tout à fait, je l'ai vu, mais le grand public, lui, ne comprend pas. Ce qu'il faut dire, c'est que si on avait trouvé quelque chose de suspect sur les vélos, on n'aurait pas pu les restituer parce que les vélos auraient été placés sous scellé judiciaire dans le cadre d'un éventuel procès. Ce qu'il faut dire aussi, Monsieur Rizet, et vous le savez parce que je vous suis depuis des années sur les écrans et vous connaissez trop bien la matière pour passer à côté de cela, vous savez que le domicile de grands-parents, les domiciles des grands-parents ont été fouillés, ont été perquisitionnés. Je ne vais pas aller plus loin parce que je suis tenue par le secret de l'instruction, mais même d'autres choses ont été effectuées et on sait très bien qu'il n'y a plus aucun doute sur ces objets qui ont été restitués, sur leur domicile. Et moi, ce que j'ai dit à mes clients, j'ai dit heureusement que cet incendie n'est pas arrivé avant qu'on fasse toutes ces opérations chez vous, parce qu'on aurait trouvé quelques personnes un petit peu chagrines qui auraient peut-être pu sous-entendre que c'est vous qui faisiez brûler votre habitation. Dieu merci, ça a été fait bien après. Toutes les opérations avaient été effectuées par les enquêteurs et il n'y avait absolument plus rien à exploiter au domicile des grands-parents.
Alors, avançons ensemble. Il y a des puces de volaille, il y a des excréments de chauve-souris qui ont été découverts sur les ossements et sur les vêtements du petit Émile. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, Valentin Doyen ? Il y avait aussi une histoire de ficelle. Est-ce que vous pouvez nous rééclairer sur ce qui avait été retrouvé ?
Ça, c'est ce qui a été retrouvé il y a plusieurs mois de cela.
Mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui.
Ça veut donc dire que les enquêteurs ont ces éléments, puces de volaille, fientes de chauve-souris, traces de ficelle agricole, microfibres qui ont été décelées lors des analyses des restes de ce garçon. Donc, les enquêteurs, fort heureusement, ont 6 mois, voire 8 mois d'avance sur nous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des investigations qui ont été menées rapidement suite à l'obtention de ces informations. Et pour l'instant, ça ne permet pas de faire manifester la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Je pense finalement pas grand-chose. Est-ce que, parce qu'on trouve de la ficelle agricole, c'est un agriculteur ? Non. Beaucoup de personnes au Vernet utilisent cette ficelle sans être agriculteur. Est-ce que, parce qu'on trouve une fiente de chauve-souris, on a forcément un nid de chauve-souris dans son grenier, dans sa grange ou dans son écurie ? Non, parce que c'est encore un endroit, fort heureusement, préservé pour la faune, la biodiversité, et il y a des chauves-souris qui se baladent, enfin qui volent au Vernet comme au Vernet. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça oriente de nouveau les enquêteurs vers cette possibilité que la dépouille d'Émile a été caché quelque part dans un endroit abrité. Mais ça, Le procureur Blachon, il y a plus d'un an de cela, à l'issue des gardes à vue, ne l'avait pas caché. Donc, finalement, est-ce que ça peut nous orienter vraiment vers quelque chose? Je ne sais pas. Mm. Ce qui est certain, c'est que ça oriente très certainement les parties civiles sur il existe d'autres possibilités que la famille. Il serait peut-être d'y mettre autant d'implications que
dans les autres. Dans les autres pistes, Maître Colombani, est-ce qu'il reste des lieux qui n'ont pas été explorés selon vous et lesquels? Puisque vous, je rappelle, vous avez déposé des demandes d'actes auprès des magistrats pour essayer de faire avancer le dossier et d'expliquer qu'il y avait peut-être des pistes qui n'avaient pas été suffisamment fouillées.
Alors oui, je peux vous dire oui, il reste des lieux qui n'ont pas été explorés. Bien évidemment, cette enquête a été colossale, mais il faut faire la différence entre des visites domiciliaires, entre des habitations, des granges, des hangars qui ont pu être ouvertes pour faire des recherches particulières et notamment chercher un enfant qui était vivant dans les premiers jours de sa disparition. Et ensuite, les actes que nous avons demandés, et permettez-moi bien évidemment de réserver aux magistrats instructeurs les lieux, je ne peux bien pas sûr vous les donner à l'antenne, mais nous avons ciblé avec Maître Pinelli un certain nombre de bâtiments qui n'ont pas fait l'objet de perquisitions, qui n'ont pas fait l'objet de prélèvements et qui présentent un intérêt au regard des conclusions d'expertise dont vous venez de faire état.
Alors avec nous également le général Daoust qui est en direct avec nous, on le rappelle, directeur du centre de recherche
général de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle.
De l'IRCGN, voilà, je suis en train de m'y perdre. Merci d'être avec nous, général Daoust. J'ai une question, il y a plus de 100 prélèvements ADN qui ont été réalisés ces derniers mois. Sur qui? Pourquoi? Et vous qui connaissez un peu les labos, quand peut-on attendre ces résultats et que peut-on finalement déduire de ce retour des prélèvements quand on les aura?
Alors, les prélèvements, c'est ce qu'on appelle un prélèvement massif d'ADN sur une population donnée. La population, on sait que c'est la population du Haut-Vernay, plus tous les touristes qui ont été ciblés et identifiés pendant la période de la disparition du petit Émile. Donc, ces prélèvements sont faits, il y en a plus d'une centaine. Une centaine de prélèvements, il faut 24 heures pour avoir les résultats de chaque personne. Mais la difficulté pour l'expert qui va devoir déterminer à qui ça correspond, c'est surtout à qui ça correspond avec le ou les ADN qui ont été retrouvés sur les restes d'Émile. Et on sait que ce sont des ADN partiels, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un ADN, un profil complet qui est comparable en quelques secondes, eh bien un ADN partiel, ça peut demander plusieurs semaines pour essayer de le rapprocher. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Vous avez 15 chromosomes sur lesquels on va faire l'analyse. Sur chaque chromosome, on relève deux allèles, c'est-à-dire un code génétique de la maman et un code génétique du papa. Très bien, ça fait 30 possibilités de comparaison. Quand vous avez un ADN complet, on le voit tout de suite. Quand vous avez un ADN partiel, qui porte par exemple sur seulement 10 allèles, eh bien 10 allèles, vous allez retrouver ces allèles en commun dans une partie de la population sans que vous puissiez dire qui est qui.
Donc la difficulté pour l'expert... Pour traduire, ça va prendre quand même un certain nombre de temps.
Exactement.
Quelques semaines, voire quelques mois. Valentin Doyen, vous voulez rajouter quelque chose sur ces prélèvements?
Oui, on se focalise sur cette trace ADN étrangère qui a été retrouvée sur les vêtements du petit garçon. Or, ce qui intéresse le plus aujourd'hui les enquêteurs, et je vais vous faire une confidence dans un instant, c'est surtout ces ADN qui ont été découverts sur les enveloppes et les lettres anonymes qui ont été envoyées ces derniers mois
aux grands-parents,
à la section de recherche de Marseille et aux magistrats. 99,9% de ces courriers vont à la poubelle. Pour autant, il reste un faible pourcentage qui l'a intéresse. Il y a quelques semaines de cela, lors des prélèvements ADN, il y a une résidence secondaire du Haut-Vernay, je ne vais pas la citer, mais qui a été convoquée à Marseille, justement pour donner son ADN. Et face à elle, elle avait le directeur d'enquête, qui travaille depuis maintenant 3 ans sur ce dossier, presque 3 ans sur ce dossier. Et donc, ils ont échangé. Elle ne comprenait pas pourquoi elle devait donner son ADN, mais elle y est allée parce qu'elle était convoquée. Et là, elle a demandé, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous pensez trouver le receleur ou la receleuse? Et là, il lui a dit, non, ça nous intéresse, oui, mais il y a aussi ces lettres, ces courriers qui nous intéressent toujours. On aimerait bien un jour savoir qui envoie ces courriers avec des informations.
Mais il peut y avoir un ou plusieurs corbeaux, on est d'accord.
Un ou plusieurs corbeaux. Alors, moi, j'ai posé la question, notamment au procureur Blachon. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut parler de corbeaux? Il a dit non, puisque dans ces documents, il ne semble pas y avoir d'accusation.
Ah, voilà.
Il semble avoir des informations précises. Et peut-être que Maître Colombani, s'il est toujours avec nous, pourrait nous éclairer là-dessus. Mais il semble qu'il y a des courriers qui sont très intéressants et qui ont mené à des investigations, notamment au cœur du hameau du Auvernais.
Maître Colombani, vous pouvez nous éclairer ?
Oui, alors effectivement, et là encore, pardonnez-moi, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a différents types de courriers qui arrivent. Les grands-parents, donc les époux d'Auvignan reçoivent, on les transfère à l'ASR, mais peut-être que les courriers les plus intéressants sont ceux que l'ASR de Marseille et la magistrate reçoivent. Parce que là, effectivement, dans ces courriers, comme M. Doyen vient de vous le dire, il y a des éléments précis qui sont donnés et non pas forcément que des menaces de mort, loin de là, mais des hypothèses sur la mort d'Émile, des hypothèses peut-être sur le lieu où il a pu être tué, où il a pu être enlevé, par qui il a pu être agressé. Et c'est sur ces hypothèses-là que les enquêteurs vont pouvoir travailler. Et effectivement, si on retrouve l'auteur de la lettre anonyme grâce à cette recherche ADN, ça pourra peut-être, on pourra envisager derrière un placement, pour le moins en audition libre, mais je pense même en garde à vue, pour savoir pourquoi et comment ces courriers ont été adressés.
Philippe Zdankiewicz, j'écoute ce que nous disait tout à l'heure Maître Colombani, qui nous disait, voilà, il y a des endroits qui n'ont pas été fouillés, qui n'ont pas été visités, qui sont encore inexploités par les enquêteurs. Vous êtes un ancien gendarme, on ne va pas poser la question à François Daoust, mais comment se fait-il que les gendarmes n'aient pas tout inspecté? C'est quand même pas, c'est pas Paris, le Haut-Vernay. On a vite fait le tour des bâtiments, non?
Ça, normalement, oui. C'est la procédure qui veut, dans l'orientation de l'enquête, comment c'est donné, comment c'est dit, comment on avance. Alors, il est évident qu'on va pas négliger, mais on va plutôt s'orienter sur des possibilités, par exemple, où ont été stockés les vélos. Là, on va s'orienter maintenant, justement, sur les déchets des gallinacés, par exemple. Tout ça, on va essayer de trouver un endroit où le petit Émile était entreposé. Ces ficelles auraient pu servir aussi pour recouvrir, etc. Donc, mais il est évident que on peut pas tout perquisitionner et tout vérifier. Par contre, oui, il y a des endroits où il faut s'attacher plus que d'autres.
Il faut que ce soit dans un cadre légal, par ailleurs.
Bah aussi, parce qu'on peut pas. Il faut que tout dépend comment l'enquête s'oriente, comment la procédure est faite. On va négliger, mais isoler un coin et profiter à un autre.
Barnabé, notre chef d'édition, nous souffle à l'oreille. Est-ce que les gendarmes peuvent aller partout? Par exemple, oui. Voilà, au Auvernais, Émile a disparu. Est-ce que les gendarmes peuvent dire? On arrive, on ouvre les portes,
oui,
et on va fouiller partout. On ouvre les armoires, on cherche partout.
Ça rentre dans le cadre d'une perquisition. Et donc,
il faut un cadre légal.
Il faut.
Non, mais quand il a disparu, est-ce qu'ils ont le droit d'aller ouvrir toutes les portes, d'entrer chez les gens en disant un petit garçon a disparu, on va visiter votre maison.
On rentre dans le cadre d'une visite domiciliaire, c'est-à-dire qu'on rentre pour voir. Sans rien prendre, sans rien retourner.
Mais on fouille partout.
On fouille pas. On rentre, on regarde. Mais en aucun cas, si on commence à fouiller, ça devient une perquisition. Si
on
commence
donc à ouvrir. On cherche pas vraiment, quoi.
On cherche avec les moyens d'enquête. Voilà, on cherche du regard.
Dans le système de recherche de personnes ou d'enfants disparus. Oui, c'est voilà, on essaye de cibler, mais
c'est inquiétant, c'est pas inquiétant de voir.
Il y a quand même un
problème,
mais le cadre légal c'est important. Le droit de propriété est important. On ne peut pas faire n'importe quoi chez quelqu'un. Il y a le.
Vous comprenez bien qu'on peut pas entendre cette réponse. Un petit garçon a disparu. Il a 2 ans et demi. On le cherche dans un village. On peut pas avoir cette réponse. Il y a un cadre légal. On le cherche, cet enfant.
Tout ce qui a été fait a été mis en œuvre. Les recherches, les battues, le génie.
La preuve que non, puisque Maître Colombani nous dit que tout n'a pas été fouillé.
Parce qu'il y a d'autres pistes extérieures à la famille qu'elle, à son sens, devraient être explorées. Je regarde le sous-titre de votre livre, Valentin, les zones grises de l'enquête. Je me souviens qu'on a fait un podcast ensemble et que vous m'avez raconté qu'on s'était beaucoup, nous, focalisé sur ces chiens. Vous savez, qui avaient pisté et qui avaient stoppé, qui avaient marqué l'arrêt devant le lavoir. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits? Vous m'aviez évoqué également l'endroit d'une cabane où ce petit garçon aimait jouer. Alors, c'est ça aussi, les autres lieux?
Bah oui, entre autres, mais moi, 20 mois après le début de cette affaire, alors que je travaillais dessus presque quotidiennement, j'ai appris que les chiens n'avaient pas marqué au lavoir.
Alors, ils ont marqué où?
Ils ont marqué là où ils se sont le plus excités, c'est au niveau de cette cabane située au nord du hameau, sur la crête, là où Émile s'était rendu le matin avec ses oncles et ses tantes, là où il aimait jouer. Et plusieurs témoins m'ont dit que c'est à cet endroit que les chiens étaient surexcités, qu'ils faisaient des bonds de plusieurs mètres, et il n'y a rien d'étonnant à cela. puisque tout le monde a déclaré que l'enfant s'y était rendu le matin pour en profiter. Mais pour autant, il y a quand même ces deux témoins oculaires qui voient l'enfant descendre en direction du lavoir et en direction du clapier. C'est pour ça qu'il y a un immense point d'interrogation et qu'il y a des zones grises encore. Près de 3 ans après les faits, il y a que la moitié du crâne de cet enfant qui a été retrouvé.
Absolument.
On ne sait toujours pas précisément où il s'est volatilisé, où il a été tué, où il a été caché. On ne connaît que l'endroit où la moitié d'un crâne et quelques vêtements ont été retrouvés. Il y aurait jusqu'à 4 biotopes, hein. C'est ce que j'ai dit dans le livre, jusqu'à 4 biotopes avancés par les médecins et
les experts. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a une intervention humaine, que le corps du petit Émile n'a pas séjourné pendant tous ces mois à l'endroit où on l'a retrouvé, que quelqu'un donc l'a pris là où il avait été entreposé, excusez-moi, pour transporter son corps à l'endroit où on l'a retrouvé. On sait qu'il ne porte pas les vêtements qu'il portait le jour où il a disparu.
Les lambeaux de
vêtements.
Ah, si, les vêtements retrouvés, ce sont les vêtements qui portent le.
Oui, mais ils sont pliés, ils sont suffisamment pliés pour qu'on se dise qu'il n'a pas forcément été conservé dans ses vêtements.
Et puis son t-shirt, l'analyse de son t-shirt prouve qu'il ne s'est pas décomposé.
Expliquez-nous ça. Alors, les vêtements qu'on retrouve sur lui, c'est quoi? C'est les vêtements qu'il avait le jour où il a disparu?
Oui, c'est les vêtements qu'il avait le jour de sa disparition. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont manquants. Il manque les chaussettes, il manque les lacets aux chaussures, il manque également le short, seule la culotte, son slip d'enfant, le t-shirt et les chaussures sans lacets ont été retrouvés. Et dans son t-shirt, il n'y a pas de décomposition. Ça veut dire qu'il lui a été retiré peu de temps avant sa mort ou après. Autre information que je donne dans le livre.
Et qu'on lui a remis. Qu'on l'a remis sans lui ensuite.
Non, on ne lui a pas forcément remis.
Pourquoi il n'y a pas de trace de décomposition?
Il ne sait pas de décomposer dedans. Donc, il a été retiré. Lorsque Émile s'est décomposé, il n'avait plus son t-shirt sur lui.
Voilà.
Il n'y a pas cette trace. Et puis, l'ADN des proches n'a pas été retrouvé non plus sur ce t-shirt, ce qui est très surprenant. J'ai pu échanger avec Anne Vedovini, la grand-mère, à ce sujet. Elle me dit qu'elle a manipulé son petit-fils, ne serait-ce que pour le mettre dans la voiture la veille, ne serait-ce que pour lui mettre la ceinture, enfin, logique. Donc, il y a l'hypothèse que ce vêtement a peut-être été nettoyé pour enlever un maximum de traces.
Alors, Général Daoust, vous êtes toujours avec nous. Avec tous ces éléments qu'on a mis un peu sur la table, vers quoi on peut s'orienter vers la suite? Est-ce que la science, je fais appel à votre côté scientifique, est-ce que la science va pouvoir nous aider dans cette enquête? Est-ce qu'on saura jamais la vérité?
Alors que, comme le disait Valentin tout à l'heure, oui, les enquêteurs ont plusieurs mois d'avance par rapport à tout ce que le biotope et la biocénose, c'est-à-dire tout ce qui constitue cet écosystème et les différents écosystèmes du lieu où il y a eu le drame, du lieu où le corps a été caché, du lieu où le corps a été, enfin, les restes ont été retrouvés, eh bien, leur permettent de s'orienter vers différents autre lieu, mais avec, bien sûr, la recherche plus élargie. On parlait des lettres anonymes tout à l'heure. Effectivement, c'est chercher une personne et un témoignage supplémentaire qui va orienter sur un des 3 lieux, voire les 3, voire sur qui a pu interférer et créer ce drame. Donc, tout est ouvert actuellement. Je rassure quand même Dominique en disant on peut pas rentrer, on peut pas fouiller. Non, on peut pas fouiller, mais lors de la recherche d'Émile, avaient été ouverts les armoires, les congélateurs, les frigos, les caves et les greniers avec l'autorisation des personnes qui étaient à l'intérieur. Donc, on voit qu'on a quand même des capacités pour avancer. Et en tout cas, c'est la science là est un point focal sur lequel s'appuient les enquêteurs.
Merci beaucoup, Général Daoust. Maître Colombani, même question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vos clients? Et saura-t-on jamais, puisque c'est une obsession, mais une saine obsession, qui a tué Émile?
Bien, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est effectivement que les enquêteurs arrivent à trouver la vérité, parce qu'ils ont besoin tous de cette réponse, et en premier les parents d'Émile, en second bien évidemment les grands-parents. Et comme vous l'avez dit en début d'émission, il y aura toujours, tant qu'on n'aura pas cette réponse définitive, des gens plus ou moins mal intentionnés qui vont émettre des doutes, des théories qui sortent de n'importe où. Il faut les accuser, il faut les stigmatiser, il faut les montrer du droit. Et en plus, aujourd'hui, on les met en danger. Et je voulais vous remercier pour cette émission, parce que j'espère que de l'entendre, ça va aussi calmer un petit peu les ardeurs de chacun, de beaucoup de personnes qui, notamment sur les réseaux sociaux, font preuve d'une violence inouïe. Merci à vous.
Merci, maître, d'avoir été avec nous. Valentin Doyen, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, juste pour mettre un peu d'eau au moulin de Dominique quand même. À ma connaissance, la maison d'Anne et Philippe Vedovini a été perquisitionnée pour la première fois en décembre dernier. 28 mois après le début.
Ce qui nous avait surpris, parce qu'on s'était demandé s'il ne l'avait pas fait dans la foulée. Effectivement, non. On le rappelle, il y a 3 vélos qui avaient été saisis.
Et des outils.
Les vélos et des outils.
Les fameux outils qui avaient permis au grand-père et aux oncles de travailler cette cabane et de construire le paddock. La plus grosse des perquisitions a été menée 28 mois après le début de l'affaire. Donc, c'est logique aussi que les parties civiles et que le grand public se posent des questions. Est-ce que tout a été fait, bien fait? Est-ce que la vérité se manifestera? J'espère.
On retiendra, merci à tous les trois d'être venus avec nous, on retiendra donc cette garde à vue extérieure à la famille Boris qui est toujours en cours dans la région à Barcelonnette. Ces 5 départs de feu et l'attente des grands-parents, comme tous les acteurs de ce dossier qui cherchent la vérité dans cette énigme criminelle. Je rappelle votre livre, Valentin Doyen, Émile, les zones grises de l'enquête, publié chez Fayard. Merci absolument d'être venu aujourd'hui avec nous, merci à toi. Merci surtout Dominique de m'avoir accompagné.
Ah, je suis tellement content,
réel
tellement
plaisir.
Content qu'on se retrouve.
Et on va plus se quitter.
Ah non, ça non.
Merci.
L'affaire suivante, c'est dimanche prochain.
Vous avez maintenant rendez-vous avec l'actualité, avec Jérémy Brossard. Restez sur BFM TV. Merci à tous.